Qu'y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non. Oui, on...
Des films qui sortent le 3 mai, des films qui sont sortis bien avant. C'est le sommaire de Cinérama. Bonjour Manu, bonjour Marine.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Alors Marine, toi, ton sommaire, c'est quoi ?
Alors moi, je vais vous parler des grands espaces de la Croatie avec En amont du fleuve de Marion Ancel. Et puis je vais parler huis clos, le huis clos du Hammam avec À mon âge, je me cache encore pour fumer, un film algérien.
Et tu as eu l'occasion de voir la réalisatrice Marion Ancel.
Tout à fait, ainsi que Sergi Lopez, donc on aura droit également à une petite interview.
Pour moi, c'est beaucoup plus simple de jouer en face d'Olivier Gourmet s'il est inspiré que je suis en face d'un bout de bois, tu vois.
Voilà, j'espère que vous avez tous compris, chers auditeurs. Sergi Lopez, quand il parle, c'est pas tout le temps facile. Donc il préfère jouer devant Olivier Gourmet, qui effectivement joue avec lui dans le film, que devant un bout de bois. C'est alléchant hein, quand même pour cette interview. Et toi, Manu ?
Eh bien, deux films asiatiques, un film coréen, Tunnel, de Kim Song-un, un film catastrophe, et puis le nouveau film du japonais Kore-eda, Après la tempête.
Et ce film catastrophe nous donnera l'occasion de jouer un blind test spécial claustrophobie, 5 extraits de films, pour bien découvrir des films où les personnages sont enfermés. Voilà. Et il ne l'apprécie pas, parce qu'on peut être enfermé et puis l'apprécier.
C'est voilà, assez rare.
On est d'accord. C'est assez rare, mais ça arrive. Et puis, eh bien, moi, je vais commencer par vous parler de Aurore, de Blandine Lenoir.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Les mecs, ils grèvent des cœurs, des mains, des poumons. Ils sont même pas foutus d'inventer quelque chose contre des bouffées de chaleur, ça me rend dingue !
L'explication médicale de la ménopause, eh bien, nous l'aurons dans Aurore, premier film de Blandine Lenoir, avec, on l'entend, Agnès Jaoui, qui sera de tous les plans. Aurore, on le sait donc, arrive à ce moment où les bouffées de chaleur ne préviennent pas et où, semble-t-il, on décline. Aurore est séparée, elle n'a plus d'emploi et devient grand-mère. Ça fait beaucoup et ça la fait réfléchir sur ce qu'a été sa vie, ce qu'elle est et ce qu'elle pourrait être. Elle se sent proche de l'exclusion dans une société obsédée par le jeunisme, l'apparence et les profits immédiats. De rencontrer par hasard l'amour de ses 18 ans qu'elle a honteusement lâché pour son meilleur copain de l'époque va l'aider à entrer en résistance. Alors ce n'est pas comme si cet homme était marié avec des enfants, non, il est célibataire, c'est une aubaine. Mais les choses ne seront pas si simples, nous ne sommes pas dans une comédie romantique mais plutôt dans une comédie fantaisiste. Blandine Lenoir, qui a voulu mettre en scène une femme de 50 ans, comme il y en a peu finalement au cinéma, oscille entre situation réaliste, le quotidien, Pôle emploi, les agences intérim, et situation fantaisiste, voire carrément improbable. Un tic qui d'ailleurs peut être dérangeant au début du film avec des scènes qui ne sont d'ailleurs pas nouvelles, hein, comme le personnage principal qui n'est pas détecté par les portes à ouverture automatique. Mais d'autres scènes plus inattendues, représentant la lâcheté machiste ou la société patriarcale, sont plus appréciables et viennent agrémenter cette comédie qui finit par être légère et engagée. Alors, Aurore doute, est abattue, lutte. Pour ne pas rester figée dans la cinquantaine, la réalisatrice profite de second rôle pour confronter au personnage eh bien, d'autres moments de la vie d'une femme. Elle est notamment entourée par ses deux filles. Il y a l'adolescente qui vit une histoire d'amour à sens unique et semble déjà occuper la place assignée aux femmes par la société patriarcale. Être aux petits soins, préparer à manger, suivre l'homme quand il change d'orientation professionnelle. En quelques mots, et pour le résumer, se sacrifier. Et la plus grande de ses filles eh bien, vit une maternité à un tout jeune âge. Autant de situations miroirs pour Aurore. Il reste aussi un autre personnage qui est bien proche d'elle, c'est sa meilleure amie, une femme pétillante, ouvertement féministe.
Et vous, vous connaissez d'où avec Manon ?
Par la source immobilière, je sais pas comment j'aurais fait sans elle.
Allez, on fait une partouze.
Hervé, ça va ?
Pardon ? Et vous, vous faites quoi dans la vie ?
Aurore, elle a un talent mais extraordinaire.
Ah non !
Ah bah si, ah si. Eh ben, Aurore connaît le nombre de lettres de n'importe quel mot. Non mais dites-lui un mot, vous allez voir.
Quotidien. 9.
Silence.
7.
Cunilingus.
11.
Sodomie.
7.
Oh Philippe.
Bon, voilà.
Bah, ça sert à rien, mais c'est génial.
35.
Allez, je fais un test tout de suite, Cinérama.
12.
Il y a peu de chance.
On n'a pas le même talent qu'Anas Jaoui. Hein.
Alors, d'autres personnages secondaires donnent l'occasion à cette comédie de ne pas être seulement le portrait d'une seule femme, hein, clairement féministe. Aurore de Blandine Lenoir n'égratigne pas pour autant tout les hommes, ce qui pourrait être le cas d'un film trop engagé. L'amour de jeunesse incarné par un Thibaut de Montalembert, trop rare au cinéma, qui nous la joue tout en séduction. Même l'ex-mari hein, sont des personnages bienveillants et fragiles. Si parfois on sent la tentation de Blandine Lenoir de surligner son propos, la plupart du temps, la légèreté l'emporte. Elle réussit notamment une belle séquence où elle parvient, dans le même plan, à mêler plusieurs générations, occupées à regarder à la télévision un entretien avec une intellectuelle. Cette intellectuelle explique la vision patriarcale de notre société à l'égard des femmes, où sur une pyramide des âges, on ne les voit seuls qu'à l'âge de 10 ans et au moment de mourir, tandis que les hommes sont toujours seuls, sauf au bras d'une femme à l'âge de 30 ans. Voilà, rien que pour ça, on peut foncer aller voir Aurore, une petite comédie intelligente et finement interprétée.
On va faire un petit dossier, puis en plus vous avez un super nom, Aurore Tabor.
Tabor, c'est le nom de mon mari, je m'appelle Plou en fait, Aurore Plou.
De toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, 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 je vous dis. Et même saloperie. Hein.
Après la tempête, d'Hirokazu Kore-eda. Alors, de quelle tempête s'agit-il ? Littéralement, d'un typhon récurrent contraignant les habitants à rester chez eux. Alors, ce fil rouge annoncé dès le début du film ne paraît pas pertinent sur le coup, mais révélera toute sa part symbolique et métaphorique dans une dernière partie assez bouleversante. Alors, après tel père, tel fils et notre petite sœur, Kore-eda continue à s'intéresser à la famille et ses dysfonctionnements à travers le portrait touchant d'un loser qui n'a rien de magnifique, débarrassé de tout romantisme superflu, enfin un vrai de vrai, un vrai loser. Alors un ex-écrivain prometteur, hein, couronné de quelques prix, Ryota n'en finit plus de courir après son passé, incapable d'écrire à nouveau, figé donc dans un passé encombrant et des rêves inaccessibles, il exerce pour survivre le métier peu reluisant de détective privé, ce qui nous vaut quelques scènes assez hilarantes où il suit son ex qui va voir son amant. Alors en bon raté, que l'on verrait facilement d'ailleurs dans toutes les comédies américaines traitant d'un sujet similaire, il joue aux courses plutôt que de filer la pension alimentaire de son fils de 11 ans à son ex-femme. Sentant bien qu'il risque de tout perdre, il tente de reconquérir la confiance de sa mère, de sa sœur, mais surtout de son fils. Énoncé comme ça, le film a tout du, on va dire, du psychodrame croulant sous les pierres poncifs. On craint dans un premier temps d'assister à une chronique douce-amère remplie de clichés sur la paternité, moralisatrice et bien pensante. Mais c'est mal connaître le talent de Kore-eda, peintre subtil et plus dérangeant qu'il n'y paraît sur les relations humaines, particulièrement familiales, dont il s'est fait la spécialité depuis quelques films. Alors la plus belle idée du film tient dans l'évolution du personnage principal, loin de toute remise en cause ou mea culpa rédempteur, ou alors d'une manière beaucoup plus juste et humaniste. L'immaturité de Ryota n'est pas perçue comme une pathologie, une tare. Cet enfant un peu éternel et très égoïste pourrait être détestable, mais il parvient à être émouvant. Tout son parcours n'est pas de grandir, de devenir enfin responsable, comme dans n'importe quel film hollywoodien. Et je pense à des comédies style les films de Judd Apatow, qui présentent souvent des personnages comme ça, très immatures, qui vont changer au fur et à mesure du film. Mais là, c'est le contraire. Le but, c'est d'accepter son immaturité, de vivre avec. Le regard lucide du réalisateur, alors émeut, touche très juste, et il faut être de mauvaise foi pour ne pas se reconnaître un peu dans ce personnage un peu filou, un peu lâche, fuyant le quotidien pour s'attacher à des chimères. Alors l'autre figure pivot du film demeure la mère de Ryota, alors pétrie de bon sens et d'humour, hein, à l'opposé de son fils, c'est une terrestre qui accepte sa condition avec beaucoup d'humilité. Kore-eda filme très bien d'ailleurs les échanges entre les personnages, hein, grâce à d'excellents dialogues et vraiment une interprétation au diapason. La séquence d'ouverture est par ailleurs magistrale. La grand-mère et la fille classent les affaires du patriarche décédé. La douleur est présente, mais elle est animée d'un esprit cruel, drôle et tonique. Kore-eda sait, même en abordant des sujets un peu tire-larmes, rester toujours sur la bonne tonalité entre émotion contenue et humour complice. Et comme je l'indiquais au début, hein, tout le film va converge vers cette fameuse nuit tempétueuse, le fameux typhon, qui va réunir la famille par un concours de circonstances sous l'œil malicieux de la grand-mère qui aimerait que tout le monde se réconcilie. Alors là, Kore-eda ne tombe pas dans le piège de l'émotion facile, des grandes révélations dramatiques, des secrets familiaux. Personne ne va exploser, déballer son linge sale, personne ne va mourir non plus. Non, rien de tout ça, juste une famille décousue, obligée de vivre ensemble le temps d'une nuit et d'évoquer à demi-mot des souffrances, des regrets, des blessures. Alors les cicatrices sont bien ouvertes, mais il reste toujours un petit peu d'espoir. Alors pour capter tous ces moments, la mise en scène est presque invisible, au point d'en paraître anodine, comme dans un téléfilm. Il y a un petit côté un peu comme ça, un peu étriqué. Mais elle fait preuve pourtant de beaucoup de délicatesse. Hein. La manière de filmer les décors, les ruelles assez modestes, des individus mal à l'aise, en dit plus long que de longs discours sociaux. car Kore-eda est un des rares cinéastes japonais à s'intéresser au prolétariat, cette frange de la population qui galère de petit boulot en petit boulot. On est plutôt habitué à voir ce type de cinéma, on est plutôt habitué au Japon, je dirais, à voir un cinéma de critique plus de la petite bourgeoisie que d'un cinéma comme ça prolétaire, ce qui donne, je dirais, une originalité à ce film qui est assez touchant, voilà.
Et qui est déjà sur les écrans français, ce qui n'est pas le cas de En amont du fleuve, dont nous allons parler maintenant avec une interview à la clé.
Qui êtes-vous ?
Cinérama.
J'ai pas très bien saisi.
Chronique, invité et nouvelles du 7e art.
Tu comprends ce que je veux dire ?
Homer, interprété par Olivier Gourmet, est à la tête d'une entreprise de transport routier un peu aigri avec un sérieux penchant pour l'alcool. Il apprend un beau jour que son père, qu'il n'a jamais connu, a été retrouvé mort dans les montagnes croates, une balle dans la tête. Alors suicide ou assassinat, nul ne sait, hein, pas même son demi-frère Joey, interprété par Sergi Lopez, dont il découvre l'existence suite au décès. Ils héritent d'un bateau et de la dernière volonté du défunt, ramener ce bateau aux sources d'un fleuve au beau milieu de la Croatie, où vivait donc leur père. L'occasion pour eux d'apprendre à se connaître mutuellement et peut-être de découvrir la raison de sa mort, d'autant qu'ils rencontrent sur leur route un certain Sean qui vit en ermite dans la montagne et qui dit avoir bien connu leur père. Alors, je tiens quand même à préciser que ces trois personnages constituent l'intégralité du casting. Donc, amateurs de grosses productions et autres films d'action, s'abstenir. Sergi Lopez et Olivier Gourmet sont sur un bateau. Personne ne tombe à l'eau, mais personne ne parle non plus. Dès le départ, le premier dit à l'autre « Je te préviens, je ne suis pas un grand bavard. » Ce à quoi le second répond « Ça tombe bien, moi non plus. » Et là, on se dit que le temps risque de sembler un peu long. Bon, alors, on n'est pas là pour la truculence des dialogues, hein, on est davantage là pour le jeu, ou plutôt pour la présence des deux comédiens. Et de la présence, il en faut pour habiter les nombreux silences qui peuplent le film. Si la faculté d'Olivier Gourmet à faire exister un personnage taiseux n'était plus à démontrer, on redécouvre en revanche un Sergi Lopez tout en sobriété. Et puis le véritable personnage central ici, c'est la Croatie. Une Croatie solaire, montagneuse, sauvage, merveilleusement filmée, qui donne un parfait écrin à ce récit initiatique sur l'âge adulte, sur le poids des secrets et des liens familiaux. C'est beau, c'est sensible. Forcément, ça paraît un brin longué, hein, parce que c'est très contemplatif. Mais ça reste un bon film. On écoute justement la réalisatrice Marion Ancel.
Et Sergi Lopez, oui.
Qui nous en parle.
T'en sais plus sur sa mort ?
Non. Je sais juste qu'un moine a trouvé son corps dans la montagne, près d'un ermitage, une balle dans la tête, qu'il a prévenu la police.
Vous voulez que le père ait un passé, disons, trouble ? Que ce soit pas spécialement quelqu'un de beau, de magnifique, de simple, d'humain, de... On voulait une image plutôt noire et négative du père, mais on ne savait pas, enfin, parce que dans une autre version, le père faisait aussi un trafic, mais un trafic d'autre chose. Et c'est vraiment quand on a décidé de tourner en Croatie que j'ai fait des recherches, je me suis un peu penché sur qu'est-ce qu'il y avait et qu'est-ce qu'il y a malheureusement encore maintenant. Dans tous les pays des Balkans, c'est un trafic d'armes très très important. Donc il en reste, il y en a, elles sont transportées via les frontières, via l'Italie, vers l'Europe principalement. Elles sont difficilement contrôlables. Et cette histoire de l'IRA, quand il rencontre l'Irlandais qui a connu le père et il dit le père, votre père a aidé l'IRA à s'armer, c'est vrai.
Au fait, il faisait quoi ?
Je sais pas. On s'est parlé plus depuis 15 ans.
Tous mes films sont extrêmement retenus, presque sans parole, extrêmement minimalistes, parfois trop, et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ne marchent pas des masses. Et si je pouvais faire un film volubile... Après, eux, ils savent jouer totalement ces personnages dans le silence et avec des tout petits gestes ou détails. Ils savent jouer le silence. Il y a beaucoup de comédiens qui ne savent pas jouer le silence.
Hey ! Tu fais quoi, là ? On l'a tué, toi, peut-être ?
Moi ?
Oui, toi ! Maintenant, tu vas tout nous dire. Qu'est-ce qui est arrivé avec notre père ?
Je vais vous expliquer.
Qui l'a tué ?
Je vais vous...
Parle !
Je parle ! Écoute-moi ! Je parle !
Parce que moi, j'appelle vraiment les comédiens d'honneur, comme Olivier et Sergi. C'est, d'abord, ils se mettent dans les mains d'un metteur en scène et puis on fait l'histoire, on fait ensemble. Et surtout, ils donnent à leur partenaire tout.
C'est pas une question de générosité, c'est même, si tu veux, une question égoïste. C'est que, tu vois, moi, pour moi, c'est beaucoup plus simple de jouer en face d'Olivier Gourmet s'il est inspiré que je suis en face d'un bout de bois, tu vois. Tu vois, si l'autre il est habité, si l'autre il joue, s'il est là, tout ça,
oui, ça.
Ben, ça t'inspire, ça te donne envie de jouer.
Ça,
à côté, ça te porte aussi, donc l'un porte l'autre. L'idée de dire, je vais essayer de dynamiter l'autre, pour que comme ça, c'est un truc. Enfin, j'ai entendu dire ça, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des acteurs qui font ça.
Ça va?
Mais arrête de boire.
Mais toi, oh quoi, oh, tu vas te fermer, mais qu'est-ce que t'as?
Ferme ta gueule, je fais ce que je veux encore!
Tu fais ce que tu veux, c'est ça ton truc? T'en suis? Qu'est-ce qu'il y a?
Mais toi!
C'est ça ton truc? T'es une cognée, ça te fait plaisir!
J'aimerais savoir s'il a été un bon père pour toi.
Là, je voulais pas faire un film exotique.
Voilà, il est un peu exotique, ah, parce que si. Ça se passe en Croatie,
oui.
Mais voilà, elle ne voulait pas faire que ça. Donc, le silence qui s'exprime dans ce film, En amont du fleuve, sur les écrans, le 3 mai, c'est aussi le cas d'un autre film dont nous allons parler, c'est Tunnel.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passerait aisément.
Et je pense un peu plus spectaculaire. Nouvelle coqueluche du cinéma coréen, hein, Kim Song-un, avait créé la surprise avec son excellent thriller tendu et ironique Hard Days, sous influence des frères Coen. Il revient aujourd'hui avec un blockbuster ultra codifié, le film catastrophe, mais choisit un angle plutôt original, voire intimiste, se frayant ainsi un chemin du côté du survival. Alors qu'il est en route pour rejoindre sa famille, hein, Lee Jung-so est enseveli sous un tunnel coincé dans sa voiture. Alors devant survivre avec un peu d'eau et un gâteau prévu pour l'anniversaire de sa fille, il lui reste son portable comme seul contact vers l'extérieur. Alors pendant ce temps, une opération de sauvetage à l'échelle nationale est mise en œuvre pour sauver ce qui pourrait être l'unique individu pris au piège. Les médias sont sur l'affaire, les citoyens s'émeuvent de ce drame et les politiciens sont bien embarrassés par la situation. La vie d'un seul homme vaut-elle le coup d'être sauvé au risque d'en perdre d'autres? Car le tunnel n'a pas fini de s'effondrer. Alors c'est pas la première fois que le cinéma coréen aborde le film catastrophe, mais jusqu'ici il ne s'agissait que de pâles imitations des modèles américains, hein, réalisés d'ailleurs souvent avec efficacité. The Last Day ou Pandora en sont les exemples les plus criants, des produits bien emballés, dotés d'effets spéciaux convaincants, mais qui peinaient à se démarquer des grosses baudruches signées Roland Emmerich. Il en est tout autrement avec Tunnel, qui en partant d'un pitch rappelant un fameux film des années 90, Daylight, avec Sylvester Stallone, emprunte une veine beaucoup plus subtile, quitte à déserter les morceaux de bravoure attendus pour s'intéresser davantage au personnage principal enseveli sous les décombres. Alors peu sympathique au départ, hein, Lee Jung-soo, le personnage principal, gagne en épaisseur au fur et à mesure que la situation s'aggrave. Les relations qu'il noue avec sa femme sont par ailleurs très émouvantes. Mais les qualités de Tunnel ne s'arrêtent pas là. Le réalisateur, comme dans son film précédent, aime brouiller les pistes, mélange les genres, s'offre des ruptures de ton. Sans s'affranchir de son contenu émotionnel, il enrichit son film d'un humour décapant, d'une ironie assez cruelle, fustigeant au passage le rôle des médias toujours avides de sensationnalisme et des politiques obsédés par la stratégie cynique de ce qu'il faut faire vis-à-vis de la population. Alors on peut néanmoins regretter l'ajout d'un personnage inutile, voire deux si on ajoute un quadrupède, dans le tunnel, mais qui n'apporte rien à l'intrigue. Hein. En revanche, le portrait des sauveteurs est remarquable de justesse. Hein. Ils sont perçus comme des hommes normaux, parfois maladroits, inquiets, courageux, sans prendre de risques inutiles. On est loin de l'apologie de l'héroïsme cher au cinéma patriotique américain. Alors, sans posséder le rythme frénétique et vertigineux de Dernier train pour Busan, la petite sensation de l'an passé, Tunnel est un excellent divertissement, intelligent, ponctué de nombreux rebondissements savamment dosés. La mise en scène, moins fonctionnelle qu'elle ne semble paraître de prime abord, a l'élégance de son classicisme, ce qui rend lisible toutes les scènes spectaculaires. Il manque sans doute à Kim Song-un un brin de folie, un décalage pour accéder au niveau de... Alors là, j'ai encore prononcé les noms de Bong Joon-ho ou Park Chan-wook. Mais il reste l'un des meilleurs espoirs d'un cinéma coréen qui n'en finit pas de surprendre.
Eh bien, merci. Et ce quadrupède, c'est soit un rat, soit un chien, soit
un chien.
Je sais pas.
C'est pas une grande surprise, parce qu'une girafe dans un tunnel, ça
c'est improbable, effectivement. Donc, ce film Tunnel, qui sort le 3 mai sur les écrans, nous donne l'occasion de jouer un blind test spécial film claustrophobie. Et on va tout de suite commencer, on va écouter un extrait, il suffit de découvrir eh bien, le film.
Une suite de numéros.
Le numéro des pièces. Il est différent pour chaque pièce.
Ah, super. Ça voudrait dire qu'il n'y a que 566 400 000 pièces dans cette chose.
Il vaut mieux que ce ne soit pas ça. On devrait pouvoir tenir 3 jours sans boire et sans manger avant d'être trop faible pour bouger.
Mais ils vont nous nourrir, pas vrai?
Holloway.
Chaleur, stress, épuisement physique, déshydratation, migraine, étourdissement, vertige, confusion mentale. Et pour terminer, le corps va se décomposer très très lentement.
Si c'est ça. Ça stimule la sécrétion de salive.
Alors, sucez ça, c'est un bonbon, Marine. Et donc, ça a été trouvé, c'est...
Le cube de Vincenzo Natali.
Alors, c'était pas un bonbon, d'ailleurs, c'était un bouton, pardon. Voilà, donc, il fallait commencer fort. Et on va continuer aussi fort, enfin, je veux dire, fort facile, quoi.
Quoi ?
Une chambre de survie. Une forteresse à l'époque médiévale.
On en a parlé.
C'est très à la mode dans la construction haut de gamme. On n'est jamais trop prudent face aux effractions.
C'est absolument parfait. Votre alarme se déclenche au milieu de la nuit. Quelles sont vos options? Appeler la police et attendre tout le week-end? Vous faufiler en bas ou sous vêtements pour jeter un coup d'œil? Oh, ça m'étonnerait.
Mur en béton armé, ligne téléphonique enterrée non connectée à la ligne principale. Vous appelez la police sans qu'on puisse vous couper. Système de ventilation spécifique, une batterie de moniteurs de surveillance couvrant la quasi-totalité de la maison.
Ah, tout ça, ça m'a un peu nerveuse. Pourquoi? Vous n'avez jamais lu Poe?
Non, j'ai adoré son dernier album.
La petite confusion, oui, petite confusion. Donc ça, c'était facile.
Oui, Panic Room, voilà. David Fincher. Avec le début de Kristen Stewart au cinéma.
Oui, effectivement.
Qui était pas très jolie à cette époque.
Qui jouait la fille de Jodie Foster, qu'on entendait, qu'on avait l'avantage d'écouter en version française, puisque c'est sa propre voix qu'elle double chaque fois. Troisième extrait, facile aussi, normalement.
Je n'ai jamais eu d'âme. Pourtant, vous nous avez tiré dessus.
Dans la tête et dans la gorge, comme ça vous pouvez mentir.
Je ne mens pas. On était tous que des chauffeurs.
Chauffeurs de quoi?
De camions, tu vois, les camions sur les routes qui transportent du matériel. C'est moi, c'est nous, c'est tout. Je suis pas soldat, juste un chauffeur.
5 millions d'argent.
Quoi?
5 millions d'argent ce soir, 9h, où tu dois rester enterré comme un chien.
Qui va me donner 5 millions de dollars?
Ta famille.
Ma famille n'a pas 5 millions de dollars. Si elle les avait, je serais jamais venu ici.
Alors, ambassade.
J'en sais rien. Oui, oui. Pardon, Bassin. Oui, laissez-moi sortir et vous donnons les 5 millions. Ouais.
Ce soir, 9h. 5 millions d'argent.
Alors, je ne sais pas si vous, chers auditeurs, vous avez pu trouver, à partir de cet extrait, quel était le film. Mais ici,
Alors, nous,
dans le studio, non.
Non.
Alors, un indice. Il est en Irak. Voilà, quand il...
Ah, Buried.
Voilà, Buried.
Ah, il est
Ryan Reynolds.
Ryan Reynolds qui est enfermé dans une tombe. Voilà, tout le film se passe avec Ryan Reynolds. Dans un cercueil. Bravo, Marine, finalement. Film de Rodrigo Cortés de 2010, quatrième extrait.
Bon, ils ne nous ont pas trouvés, donc ils savent qu'on n'est pas allé au Pays de Galles. Pour eux, ça fait 3 jours qu'on a disparu. Ça veut dire qu'ils devront explorer tout ce qui est à 3 jours du collège. Ce qui couvre... le monde entier.
Bon alors, on fait quoi?
On est retenu en otage jusqu'à ce que Marty nous libère. On peut rien faire.
Non, dis pas ça. Après tout, il est peut-être malade. Qu'est-ce que t'en dis, Liz?
Je sais pas.
Mais pourquoi il nous ferait un truc pareil? Enfin, on est ses amis.
Eh oui. Et donc, Marie,
c'était
ça a été
The Hole. Oui. Et là, par contre, c'était les débuts de Karen Hiley, avec Tora Birch aussi.
Et là, ils sont enfermés, puisque c'est les films de claustro, ils sont enfermés dans un abri anti-atomique. Voilà.
Oui, pour faire la fête, et puis bon, bah, ils sont tous enfermés.
Et ils n'ont pas la clé. Cinquième extrait.
Tu te rappelles qu'Alice n'a pas toujours vécu au Pays des Merveilles?
Elle est tombée dans un grand, grand trou très profond.
Eh bien, je n'ai pas toujours été dans la chambre, je suis comme Alice. J'étais une petite fille, et je m'appelais
pas
Joy.
Pas vrai!
Et je vivais dans une maison avec papa et maman. Tu les appellerais grand-papa et grand-maman.
Mais quelle maison?
Une maison dans le dehors. Il y avait un beau jardin et on avait un hamac et on se balançait dans le hamac et on mangeait de la crème glacée.
Elle était dans la télé, la maison?
Non, Jack, une vraie maison, pas à la télé. Est-ce que tu m'écoutes, dis-moi? Un jour, j'étais plus une enfant, j'avais 17 ans. Je revenais tranquillement
à l'école. Moi, j'étais où?
Tu étais encore au ciel. Un homme a couru vers moi en disant que son chien était
là. Qui ça?
Vieux Nick. On l'appelait Vieux Nick, je savais pas comment il s'appelait. Mais il m'a dit que son chien était malade.
C'était quoi le nom du chien?
Jack, il n'y avait pas de chien. C'était rien d'autre qu'un mensonge. Ok.
C'est pas évident, hein. C'est un petit garçon et donc une mère qui sont enfermés dans une cabane au fond du jardin. Marine, t'as trouvé...
Rest room.
Oui. Et c'était Brie Larson qu'on écoutait, qui doit convaincre donc son fils eh bien, qu'un monde extérieur existe, alors qu'elle a toujours appris que le seul monde qui existait, c'était celui de la télévision et celui de cette pièce où ils sont enfermés. Voilà. Bon, ainsi s'achève officiellement le blind test spécial claustro, mais j'ai mis un petit bonus, dernier extrait. C'est une forme de claustrophobie. On écoute.
Il revient, on fait quoi?
Aucune idée.
Il faut bouger ou rester immobile? C'est toi qui as étudié la question.
En fait, on devrait être dans une cage.
Non, on devrait être à l'hôtel.
Ah, ah, les requins sont... Ils sont attirés par les poissons blessés.
Bon.
Et à mon avis, il vaut mieux ne pas trop s'agiter dans l'eau. Il faut...
Rester immobile?
Ouais, enfin, essayer, quoi.
Oh, mon Dieu. Ok. Je vais aller voir ce qu'il y a en dessous de moi. Je vais aller jeter un coup d'œil.
Ok.
Non.
Eh oui, bien mauvaise idée d'aller en dessous, il y a plein de requins. Et donc voilà, bon bah là ils sont au milieu du Pacifique, donc ils sont en tout cas prisonniers de l'eau. C'est, voilà, c'était un peu ça. En tout cas, ouais. C'est ça, c'est open water.
C'est open water, oui, voilà.
C'est ça qu'il fallait préciser.
Et c'est une victoire éclatante pour moi.
Oui, effectivement, voilà. Beaucoup de points pour toi. Marine, ainsi s'achève ce blind test qui se termine avec l'eau et on va rentrer dans le hammam avec toi.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
À mon âge, je me cache encore pour fumer et l'adaptation de la pièce de théâtre éponyme, écrite et mise en scène par Rihanna. Alors, ne pas confondre avec la chanteuse, hein, ça n'a rien à voir. Je vous parlais il y a 2 semaines du film palestinien Je danserai si je veux, ici, autre pays, l'Algérie, autre époque, les années 90, mais même problématique, le poids de la religion et les entraves aux libertés des femmes qui sont ainsi amenées à se dresser contre les hommes. Fatima, interprétée par Yam Abbas, ne trouve le moyen d'échapper à son mari violent que grâce à son travail dans un hammam de Alger. Un hammam où se croisent aussi bien les épouses des imams intégristes que les petites filles rescapées des massacres perpétrés par ces mêmes intégristes. Jusqu'au jour où Myriam s'y réfugie, elle est tombée enceinte et son frère, tout juste revenu de France, entend bien la tuer, elle et son enfant, afin de laver le déshonneur de sa famille. Fatima va tenter de la cacher dans son hammam. Tout se déroule donc en huis clos, hein, dans ce hammam, lieu de détente mais aussi de confession pour les femmes algéroises qui mettent leur corps à nu et dévoilent au passage leurs âmes, se permettant même parfois de fumer des cigarettes à l'abri des regards. Loin de la surveillance des hommes, dans ce lieu réservé aux femmes, la parole se libère pour raconter les drames. Plusieurs histoires, se croisent ainsi. Le témoignage d'une femme mariée à 10 ans, d'une autre brûlée à l'acide parce qu'elle allait à la fac en jupe, une autre encore rêvant de se marier avec un immigré qui l'emmènerait en France pour échapper à ses parents. Tout cela forme un tableau de la condition féminine pas très gai, hein, mais édifiant, qui nous rappelle que les menaces de l'obscurantisme ne sont jamais très loin et qu'il faut être vigilant pour éviter les retours en arrière. La pièce avait été écrite dans les années 90, en pleine décennie noire. Le fait de l'adapter au cinéma aujourd'hui est extrêmement symbolique, même si l'action se passe donc toujours en 95. Le casting est évidemment presque entièrement féminin. Alors si le talent de Yam Abbas n'est plus à démontrer, elle fait preuve ici quand même d'un jeu un peu trop en force, un peu linéaire. D'ailleurs, l'héritage de la mise en scène théâtrale est globalement très présent, hein, dans les cadrages, dans la construction des plans, dans le jeu des comédiennes aussi qui ont tendance à surjouer. Et ça peut être parfois un peu gênant. On a souvent l'impression d'être devant une pièce de théâtre filmée, mais ça reste un film très fort, hein, avec un sujet très bien traité. Bon, c'est pas un feel-good movie. Hein, si vous voulez rire, allez voir autre chose. Mais c'est quand même un film important. Voilà, même aujourd'hui, même si ça se passe en 95.
Et donc, il parle des femmes, hein, comme Aurore, donc ça nous fait
oui,
deux
et
films.
Oui, et puis une chose aussi que j'ai oublié de préciser, c'est que là, du coup, ça parle vraiment des femmes. Ça commence à 10 ans et ça finit à 70 ans. Mmh. Voilà, donc ça fait vraiment un très beau portrait de la société des années 90 algérienne.
Alors, méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui?
Il va contrôler qui est, qui est, qui.
Quoi, qui est qui?
Bah quoi, qui est, qui, quoi?
Eh bien, qu'y a-t-il?
Auriez-vous oublié que nous partons?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
La semaine prochaine, j'aurai le plaisir de voir Alien et d'en parler, et puis d'offrir un blind test spécial 5 Aliens. Et vous ?
Jig the Robot, un film italien d'anticipation qui a l'air curieux.
Et puis Get Out, le fameux thriller dont tout le monde parle, donc qui sort cette semaine.